Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Olivier. Olivier ? Ah oui, non, j'avais oublié. Olivier est malheureusement indisponible aujourd'hui et ne pourra pas se joindre à nous. En 3 ans de rendez-vous interdigital, c'est la première fois, malheureusement, que le vieux singe nous fait défaut. Besoin de vacances, il a préféré partir se reposer proche des cocotiers et quitter ses palmiers. Voilà. Je suis donc tout seul. Je suis pas vraiment tout seul aujourd'hui, puisqu'on est le dernier lundi du mois. Qui dit dernier lundi du mois dit les voies du digital learning. Et j'ai l'honneur aujourd'hui et le plaisir de recevoir un nouvel animal dans notre jungle. Je vais le laisser se présenter. Bonjour.
Salut Clément. Alors, donc moi c'est Cédric. Je suis rennais, j'ai 34 ans et je suis ingénieur pédagogique et intégrateur Storyline. Et à côté de ça, je suis spécialisé sur le sujet de l'accessibilité numérique depuis maintenant 2 ans.
Ça fait plaisir de te recevoir, Cédric, parce qu'on a déjà travaillé ensemble par le passé, quand on était tous les deux à l'Institut français du pétrole, à IFPEN. On s'est rencontrés là-bas et on est resté en contact depuis. Donc, ça fait vraiment plaisir de pouvoir t'avoir à nos micros et de pouvoir parler d'un sujet qui était sur notre liste avec Olivier depuis un petit moment, qui est ce sujet de l'accessibilité sur lequel toi, tu te penches depuis un petit moment. Mais avant de rentrer dans le cœur de tout ça, on a un rituel dans la jungle. On demande à nos invités de choisir un animal et donc on t'a posé la question. Donc, je te laisse te présenter ton petit animal.
Alors, sans hésitation, j'ai choisi un oiseau qui s'appelle le macareux moine, qui est un oiseau qu'on trouve au large de Perros-Guirec. Je ne sais pas si tu connais, qui est un coin magnifique en Bretagne. Et il a une spécificité, cet oiseau, c'est d'être sociable, donc il me ressemble un petit peu. Et il est un petit peu maladroit, voire très maladroit. Et en ça, il me ressemble également beaucoup.
Bah écoute, tu es le premier macareux, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit ?
Macareux moine
de Rendez-vous Interdigital. Félicitations.
Merci.
Donc comme on l'a dit, dans le début de cet épisode, on va parler aujourd'hui d'accessibilité, qui est un sujet en fait dont on entend de plus en plus parler dans le e-learning et dans le digital learning, on va dire au sens large. On va essayer de couvrir un petit peu pas mal de champs finalement de l'accessibilité pendant ces 20 ou 30 minutes ensemble. On va aller un petit peu au début sur des définitions et déjà finalement définir ce qu'est l'accessibilité. Et puis à la fin, on va essayer d'aller un petit peu sur des conseils pratiques pour que finalement nos auditeurs et auditrices puissent se projeter et voir comment ils peuvent mettre en pratique finalement ces concepts. Donc ma première question est assez simple, hein. L'accessibilité, qu'est-ce que c'est ? De quoi, quand on dit accessibilité, de quoi on parle ?
Alors le principe d'accessibilité, il est assez simple. En fait, l'idée, ça va être de créer un produit ou un service qui va être accessible à tout le monde, au plus grand nombre. Dans le cadre de la formation, on va s'assurer qu'une personne, quelle que soit sa particularité, et notamment si elle est ou non en situation de handicap, on va s'assurer qu'elle puisse accéder à la formation, mais aussi participer, collaborer, produire des supports comme tous les autres apprenants. Et donc, quand on parle d'accessibilité, il faut préciser aussi ce qu'on entend par handicap. On pense souvent, quand on pense au terme handicap, à quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou quelqu'un qui est aveugle, donc des choses assez visibles. Mais en fait, le handicap concerne énormément de personnes. On va avoir des troubles, par exemple, qui vont être cognitifs, comme par exemple le TDAH, donc trouble de l'attention. On va avoir des troubles psychiques, comme par exemple les troubles anxieux généralisés qui concernent énormément d'étudiants, par exemple, ou la dépression, le burn-out, et puis d'autres troubles moteurs dont on pense pas toujours, mais par exemple, si j'ai une sclérose en plaques, si j'ai fait un AVC malheureusement un jour dans ma vie, eh bien je vais avoir des troubles moteurs comme un bras qui pourrait être un petit peu paralysé et qui m'empêcherait par exemple d'utiliser ma souris d'ordinateur, ce qui est compliqué quand on veut utiliser un e-learning.
Il y a un chiffre moi qui m'a marqué quand tu as préparé le podcast et que tu m'as envoyé un petit peu tes notes, c'est ce chiffre de 12 millions de personnes qui sont en situation, enfin qui présentent en tout cas, je sais pas comment tu le définis exactement, qui sont en situation de handicap, c'est ça ? Avec soit des handicaps visibles, mais aussi beaucoup de ce qu'on appelle le handicap invisible.
Oui, alors il y a des chiffres. Il y a un chiffre qui est donné souvent, on dit que 80% des handicaps sont invisibles. Et après, alors sur la dénomination de dire est-ce qu'on dit situation handicap, handicapé ou autre, c'est à la personne qui dira comment elle veut qu'on la nomme par rapport à son handicap.
Donc en gros, si je résume ce que tu viens de dire, l'accessibilité, et notamment l'accessibilité dans la formation, c'est le fait d'essayer de de rendre finalement les parcours de formation, qu'ils soient présentiels, distanciels, synchrones, asynchrones, peu importe, accessibles à toutes et à tous, peu importe finalement si on est en situation de handicap ou non. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. J'étais au salon Learning Technologies en janvier. C'était pas sur tous les stands, mais en tout cas, j'ai croisé plusieurs stands qui parlaient de ces questions d'accessibilité. Et je me suis posé la question du coup de pourquoi aujourd'hui ça devient un sujet. Parce que finalement, la personne qui était handicapée il y a 2 ans, elle l'est toujours aujourd'hui. Et je pense que je sais pas si tu as des chiffres sur le ratio de personnes en situation de handicap versus les personnes qui ne le sont pas, mais je suis pas sûr que ça ait énormément évolué ces dernières années. Mais la question, c'est surtout, voilà, pourquoi aujourd'hui ça devient finalement un sujet dans notre monde de la formation?
Alors, on a eu une petite actualité, on va dire, en 2023, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs mesures législatives qui ont renforcé une loi qui a été faite en 2005, donc qui a déjà 20 ans. Donc cette loi, elle s'appelle la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, cette loi, à la base, elle concernait les services publics, les organismes qu'on dit délégataires d'une mission de service public et également les grosses entreprises qui ont un gros chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. Donc à la base, ça concernait ces personnes-là. Et avec ces nouvelles mesures de 2023, elles ont eu pour effet de renforcer cette loi. Et donc, maintenant, l'obligation d'accessibilité concerne aussi d'autres typologies de services. Donc, on va voir, par exemple, la téléphonie, le média audiovisuel, le e-commerce, le transport, le bancaire, etc. Donc déjà, ça concerne beaucoup plus de monde, mis à part les petites entreprises de moins de 10 personnes qui ont un chiffre d'affaires en dessous de 2 millions d'euros. Et la particularité de ces mesures administratives aussi, c'est pour ça qu'on en parle un peu plus aussi, c'est qu'elles ont renforcé le pouvoir des autorités de contrôle. Donc, dans le cadre de surtout l'accessibilité numérique, c'est l'ARCOM qui peut maintenant donner des sanctions entre 20 et 50 000 euros. Donc voilà, en gros, le sujet. Donc, il y a une obligation de déclaration d'accessibilité.
Donc, en gros, si je résume, cette loi de 2023, elle vient étendre le périmètre en termes de public, c'est ça, enfin, d'entreprises cibles, quoi, avec de plus en plus d'acteurs qui vont être finalement un peu obligés de se conformer à cette loi, et il y a aussi de plus en plus de contrôles qui vont être réalisés, donc tu disais, par l'ARCOM.
Oui, alors c'est un petit peu fou parce que le e-learning n'est pas cité exactement.
C'est ça, j'allais t'en parler, parce que là, tu m'as cité la téléphonie, le média audiovisuel, le e-commerce. On est où, nous? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans la téléphonie, quoique si on considère qu'une classe virtuelle, c'est bon. Je pousse le trait, mais où est-ce qu'on se situe, nous, en formation et, par exemple, en formation digitale?
Alors, en fait, c'est vrai qu'on peut considérer, par exemple, qu'un organisme de formation qui vend des formations en ligne, il fait du e-commerce. De la même manière, on pourrait se dire que le e-learning, c'est aussi un média audiovisuel. Donc, pour l'instant, ça reste un petit peu flou, mais ça vaut peut-être le coup, par principe de précaution, de l'anticiper. Et on peut très bien imaginer que dans les années qui vont passer, la jurisprudence va renforcer justement cet aspect-là en disant que, en fait, le e-learning est effectivement concerné. Mais j'ai envie de te dire, en fait, peu importe qu'on soit dans ce cadre légal-là de 2023, puisque cette loi de 2005, elle renforce ce qu'on appelle le principe de non-discrimination, qui fait que dans tous les cas, on aurait dû, en fait, depuis longtemps déjà prendre en compte cette obligation d'accessibilité, qui est en plus intégrée dans le Code du travail, c'est-à-dire qu'un employeur aujourd'hui doit assurer un salarié qui a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc ce qu'on appelle RQTH, il doit lui assurer un accès à la formation, comme pour tous ses collègues.
C'est déjà une obligation, en fait.
C'est déjà une obligation.
On n'a pas attendu 2023 pour...
Exactement. On n'a pas attendu 2023. Et puis, j'ai envie de dire, même au-delà de l'obligation légale, on est aussi dans une société de plus en plus inclusive, où cette question de prendre en compte tout le monde dans une entreprise ou dans la société, elle est importante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans ce qu'on appelle une démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Mmh. Donc voilà, le contexte est plutôt favorable à s'intéresser à ce sujet de l'accessibilité.
Demain, je dois aller sur des nouveaux développements ou des modifications de l'existant qui intègrent justement une meilleure accessibilité de ces modules ou de ces formations. Par où je commence? Enfin, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Moi, ça me paraît Enfin, ça me paraît énorme. Je m'imagine, j'ai conçu un module, il est tout. Enfin, voilà, j'ai pas forcément pensé aux grands principes d'accessibilité dont tu vas nous parler juste après. Enfin, ça me paraît être une montagne à surmonter pour refaire un module ou redévelopper quelque chose. Donc, enfin voilà, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça?
Mon point de vue, c'est que c'est effectivement clairement un petit peu galère au départ. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai démarré dans l'accessibilité, toutes ces questions-là, je me les suis posées où j'avais l'impression d'avoir une montagne de choses à faire.
C'est peut-être par méconnaissance d'ailleurs du sujet que je te pose la question, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des solutions qui aident justement à pointer certaines choses et à aller plus loin finalement sur l'accessibilité de nos modules.
Oui, alors il y a pas mal de choses à faire. Et la première chose que je recommande déjà, c'est de pas mettre le sujet sous le tapis parce que c'est compliqué, mais de faire un audit en fait qui soit le plus honnête possible. Alors quand je parle d'audit, on va se référer à ce qu'on appelle le RG2A qu'on n'a pas encore évoqué, qui est un référentiel en fait d'accessibilité, qui va nous donner un ensemble de critères répartis dans des thématiques pour nous apporter justement une méthodologie qui va nous permettre de rendre nos modules accessibles.
Ça, c'est un référentiel international, hein, si je dis pas de bêtises.
C'est un référentiel qui est
C'est
national,
national, ok.
mais qui s'inspire effectivement d'un référentiel international qui est ce qu'on appelle le WCAG, donc
Ok.
WCAG. Donc, alors sur le, je crois que c'est Web Content Accessibility Guidelines.
Ok.
Voilà, ça veut dire. Et ça qui a été mis en place, alors c'est marrant, dès 1997. Donc, c'est-à-dire
Ok.
dès les débuts du web, on s'est posé la question de l'accessibilité numérique. Et donc, pour revenir au sujet de l'accessibilité, alors moi, je parle beaucoup d'accessibilité numérique parce que je suis spécialisé dans le domaine du e-learning. Donc, c'est de faire un audit, mais aussi faire un audit de son, j'ai envie de dire, de son infrastructure si on fait des formations en présentiel, mais aussi de l'humain, des aspects techniques. Voilà, donc analyser le problème au sein de son organisation pour savoir ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Si vraiment on démarre de zéro, ça vaut peut-être le coup là de se faire aider par des organismes qui sont spécialisés et qui pourront nous donner des préconisations. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir faire des arbitrages et gérer ce qu'on appelle la dette d'accessibilité. Donc une fois que j'ai fait ce point-là honnête sur mes problèmes d'accessibilité, moi ce que je préconise déjà, c'est de se poser la question de savoir si le manque d'accessibilité que j'ai dans mon offre de formation est en quelque sorte justifié par mon modèle économique. Je donne un exemple. Par exemple, si je suis un organisme de formation spécialisé dans la réalité virtuelle, que je propose un logiciel même auteur dans ce domaine-là, qui n'a pas été pensé au départ pour être accessible, et dans tous les cas qui ne serait pas complètement accessible, puisque par exemple si je m'adresse à des personnes qui ont une déficience visuelle, en réalité virtuelle, ça va être compliqué pour eux dans tous les cas. Donc il faut se poser la question là de savoir si c'est lié au modèle économique, et dans ce cas, on va pas leur demander de créer un nouveau logiciel et de transformer toute leur offre, enfin ça coûterait
Oui, genre pour eux
excessivement
pas
cher.
de changer de business model.
Voilà,
Okay.
ce serait une usine à gaz. En revanche, ça vaut le coup de réfléchir à une alternative. Pour reprendre cet exemple de l'entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle, on pourrait très bien imaginer que, par exemple, dans son outil auteur, elle intègre un bouton qui s'appellerait, par exemple, accessibilité, et ce bouton amènerait vers une alternative, un module alternatif qu'on aurait créé par exemple avec un logiciel qu'on appelle de rapid learning qui s'appelle par exemple Rise et qui va permettre de reprendre les messages clés. Alors on n'aura pas exactement la même expérience d'apprentissage
J'allais te le dire, est-ce
que
qu'on
pour les autres,
atteint les mêmes objectifs pédagogiques?
mais ça permet enfin à ce moment-là de gérer la dette. En revanche, ce qu'il faut penser, c'est que étant donné que l'accessibilité est devenue un sujet, elle va s'intégrer dans les cahiers des charges. Donc ces organismes-là, à court terme, ils peuvent peut-être se débrouiller, j'ai envie de dire, avec une alternative accessible, mais ça vaut le coup de réfléchir, de mettre à jour leur modèle et leur logiciel sur le plus long terme.
C'est vrai que pour avoir répondu à des appels d'offres il y a quelques mois dans une ancienne vie, il y avait de plus en plus de choses qui arrivaient au fur et à mesure des mois sur, d'une part, les aspects green, ben faire attention à l'écologie, et d'autre part, ces questions d'accessibilité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus et où je me rappelle, dans le cahier des charges, on avait des pondérations à 15-20% sur ces aspects-là, quoi. C'était, enfin, quand même énorme, quoi.
Complètement, bah c'est, enfin, je parlais tout à l'heure de responsabilité sociétale des entreprises, ça s'intègre complètement là-dedans, et je crois que c'est fait de façon de pas tellement ostentatoire, mais de façon honnête. Donc effectivement, ça va s'intégrer peu à peu dans les cahiers des charges. Donc voilà. Donc il y avait vraiment déjà cette question de est-ce que le manque d'accessibilité est justifié par mon modèle économique? Et il y a une deuxième chose que je préconise, qui est en fait aussi une question de bon sens, de me poser la question du degré d'obsolescence de mon offre. Il y a certains sujets, donc là par exemple, même les formations sur le digital learning, avec ce qui est arrivé avec l'intelligence artificielle, on a beaucoup de modules qui ont été faits même il y a 2-3 ans, qui aujourd'hui mériteraient d'être remis au goût du jour, j'ai envie de dire. Donc je vais chercher à savoir quels sont mes modules que je vais devoir modifier bientôt. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de pas trop investir dans l'accessibilité tout de suite parce que je sais que de toute façon, je vais les refaire. Par contre, pour les modules plus longs, en tout cas plus intemporels, là, je vais me poser la question de peut-être parfois faire une réingénierie pédagogique. Alors, ça peut être peut-être un peu pénible parfois, mais ça va être nécessaire pour répondre aussi à la demande des prochains, enfin des commanditaires. Une fois qu'on a fait ce point-là sur le modèle économique et sur le degré d'obsolescence, on va mettre en place ce qu'on appelle un principe d'accessibility by design. C'est-à-dire que pour ne pas générer de surcoût, pour pas que ce soit trop compliqué, je vais me poser la question de l'accessibilité dès le démarrage de mon projet.
Tout à l'heure, tu parlais de réingénierie pédagogique, et c'est vrai que ça, si tu prends module par module, finalement, c'est un truc qui doit, à la fin, en effet, coûter de l'argent à l'entreprise, parce que t'imagines que module par module, tu prends du temps d'ingénieur pédagogique, de concepteur, etc., pour faire en sorte que ton module soit accessible. Est-ce que finalement, l'accessibilité par design, c'est justement d'avoir cette vision plus macro, stratégique, en fait, pour justement que l'accessibilité soit pas spot sur un module, mais que ce soit plus, finalement, une façon de faire, comme on fait de la définition d'objectifs, comme on fait de la conception de déroulé, et qu'on intègre en fait ces petits points d'accessibilité à différents endroits, c'est ça?
Alors effectivement, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai démarré dans l'accessibilité, je l'ai vu comme une tâche additionnelle. Donc je voulais faire exactement les mêmes modules qu'avant, et j'étais obligé d'ajouter beaucoup de temps, enfin parfois 50% du temps supplémentaire de production pour essayer de tout rendre accessible. Donc dans ce sens-là, ça marche pas bien. Donc le principe d'accessibility by design, c'est vraiment d'intégrer l'accessibilité dès le démarrage du projet. Et en fait, dès le démarrage du projet, je vais pouvoir déjà faire des arbitrages, même dans le choix des modalités, etc., qui vont influencer aussi ou faciliter l'accessibilisation de ma formation. Alors moi, pour vraiment être un petit peu plus concret, moi j'ai mis en place une méthode que j'ai appelée la méthode AID, donc AID comme analyse, implémentation des standards d'accessibilité, design inclusif et évaluation qu'on retrouve classiquement dans la méthode ADDIE ou autre.
Ok. On détaille un petit peu les lettres ensemble?
Ouais, complètement. Donc, je parlais donc A comme analyse. Je l'évoquais un petit peu déjà tout à l'heure, mais je vais devoir faire un point honnête sur les problèmes d'accessibilité potentiels dans mon environnement d'apprentissage. Un environnement d'apprentissage, c'est quoi? C'est déjà une infrastructure. Par exemple, si je dois me former au e-learning dans mon entreprise et que je suis dans un open space, c'est peut-être un peu compliqué. On va se poser la question de savoir s'il n'y a pas des salles un petit peu plus calmes où je vais pouvoir me former tranquillement. On va avoir des aspects techniques. Par exemple, si j'ai une déficience visuelle, j'ai besoin d'avoir un poste informatique équipé d'un logiciel qu'on appelle une technologie d'assistance qu'on appelle un lecteur d'écran, qui c'est une voix de synthèse en fait qui va me lire ce qui est affiché à l'écran. Donc ça vaut le coup que si le poste informatique est mis à disposition par exemple par l'organisme de formation ou par mon employeur, bah, que ce logiciel-là soit intégré. On va avoir des aspects humains. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que par exemple mon manager est sensibilisé à la question du handicap? Donc sur les handicaps plus visibles, parfois c'est déjà compliqué de faire respecter ces demandes d'aménagement. Mais quand par exemple j'explique que j'ai une dyslexie, que j'ai un trouble de l'attention, ou alors que j'ai des problèmes cognitifs liés à une dépression, Vous avez encore malheureusement aujourd'hui des personnes qui vont trouver que c'est un petit peu exagéré et qui vont pas prendre en compte votre besoin d'aménagement. Donc il y a un gros travail sur l'humain, sur la sensibilisation à faire. Et ensuite, il y a des aspects organisationnels qui sont très liés à l'humain aussi. C'est que de la même manière, si j'ai des troubles cognitifs, par exemple, il y a ce qu'on appelle une comorbidité qui est vraiment liée à tous les handicaps, qui est la fatigue. Une fatigue chronique qui fait que j'ai besoin de plus de temps, généralement. Donc, d'ailleurs, le principal aménagement qui est souvent demandé, qui est très simple, c'est le temps. Et donc, par exemple, sur un e-learning, au lieu de faire mon e-learning en 1 heure, peut-être que je vais le faire en 2 heures, ou peut-être que je vais le faire en plusieurs fois 10 minutes. Donc, ça va influencer aussi la façon dont je vais granulariser mes
cours. Ouais, ça influence ton ingénierie pédagogique, finalement.
Voilà.
Donc, cette phase d'analyse du A de N, là, si je résume, globalement, c'est un peu faire l'audit dont tu parlais tout à l'heure. C'est où est-ce qu'on en est dans nos pratiques, dans nos structures et dans notre infrastructure.
Complètement. Okay. En fait, c'est ce qu'on fait déjà un petit peu dans la méthode classique de conception pédagogique, c'est cette phase d'analyse, et on va ajouter cet aspect-là d'accessibilité. Alors, au départ, c'est un petit peu inconfortable, mais après, ça devient assez automatique.
Deuxième lettre, le I, intégration, tu parlais de ça ?
Donc oui, je parlais d'intégration des standards d'accessibilité. Pourquoi ? Parce que ça me permettait d'avoir une lettre I pour avoir ce mot aide, où là, on va intégrer dès le départ justement dans le scénario pédagogique cet aspect d'accessibilité. Je donnais par exemple l'exemple de la structuration des contenus. Donc ça, c'est hyper important de bien structurer ces contenus et de bien les granulariser. Et là, je vais expliquer pourquoi c'est important. Par exemple, si j'ai plusieurs niveaux de titres, une bonne hiérarchie de mes contenus, eh bien ça va faciliter la lecture et l'intelligibilité pour des personnes qui ont par exemple des troubles cognitifs. Mais ça va aussi beaucoup servir aux personnes qui utilisent un lecteur d'écran, donc qui sont par exemple aveugles. Donc nous, par exemple, quand on lit un livre ou qu'on lit un texte sur notre ordinateur, si on a besoin de revenir en arrière, on va le faire sans tout à fait s'en rendre compte. Maintenant, il faut imaginer qu'on voit pas du tout l'écran. Donc il faut que je puisse naviguer sur l'idée d'avant très rapidement, sans avoir à cliquer pendant des heures sur le bouton flèche haut pour revenir en arrière. Donc à travers une hiérarchisation des titres, vous allez et la structuration, vous allez faciliter la navigation. Et ensuite, alors pour préciser quand même cet aspect de standard d'accessibilité.
Ouais, t'en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec le RG2A, si je dis pas de bêtises, hein, qui est le standard un petit peu référence en France, tu disais.
Oui, c'est complètement le standard référence. Et d'ailleurs, pour reprendre cette question de la loi de 2023, en fait, dans l'audit qui est fait par les autorités de contrôle, il se repose sur le respect de ces critères du RG2A. Alors, c'est pas une obligation d'être conforme à tous les critères, c'est une obligation de déclaration d'accessibilité. Donc, je vais devoir déclarer sur quels critères je suis bon ou mauvais.
Ah, c'est du déclaratif, ok.
D'accord. Exactement. Et donc ce RG2A, il va me permettre, donc on est sur des aspects quand même qui sont un peu plus techniques, j'ai envie de dire, que pédagogiques, mais il va quand même me permettre d'anticiper des problèmes qu'on appelle du UX design, c'est-à-dire que je vais anticiper des problèmes d'accessibilité qui sont liés à l'expérience de l'utilisateur.
C'est la navigation finalement, c'est ça, comment je vais passer d'une...
Exactement, donc il y a cette question de navigation que j'ai abordée, mais aussi le fait d'éviter d'avoir justement trop de contenu, de bien structurer les contenus. On va faire en sorte aussi d'avoir des médias qui soient accessibles. Par exemple, si je mets une vidéo, eh bien il faut que cette vidéo elle ait des sous-titres, il faut que cette vidéo elle ait une transcription, et si on est sur une vidéo assez longue, il faut que je puisse, pareil, retourner assez facilement au passage qui m'intéressait. Donc voilà, en gros, enfin, et après il y a énormément de critères comme les contenus, trace de le choix des couleurs, le choix des typographies, etc. Il y en a 105, donc je vais pas les décrire aujourd'hui. Et concernant plus précisément ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique, on va voir ce qu'on appelle la CUA, qui veut dire conception universelle de l'apprentissage.
C'est un autre standard, ça, c'est ça. Il y a le RG2A, il y a le CUA, c'est ça?
Voilà. Alors, c'est un standard dans le sens où c'est pas une loi, hein, mais c'est plutôt des recommandations.
Ok, c'est une méthode, quoi.
Exactement. Qui est d'ailleurs beaucoup utilisée et mis en avant par nos amis québécois qui écrivent beaucoup d'articles là-dessus. Et le principe de la conception universelle de l'apprentissage, j'ai envie de dire comme son nom l'indique, c'est que on va chercher à s'adresser à tous les apprenants quelle que soit leur particularité. Donc leur particularité, ça peut être leur handicap, on en a parlé, mais aussi leur style d'apprentissage, leur origine culturelle.
Okay.
D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais souvent, quand on parle d'accessibilité, on pense aussi aux personnes anglophones, c'est-à-dire les personnes qui vivent en France, mais dont la langue maternelle n'est pas le français.
Okay.
Donc ça, c'est ça le principe de la conception universelle de l'apprentissage. Et elle se décline en gros en trois grands principes. Le premier principe, c'est d'avoir des moyens multiples de représentation. Donc, je donnais l'exemple avec la vidéo. Donc, une vidéo, quand on y pense, c'est à la fois un podcast, c'est à la fois un texte.
Ouais.
Et donc, de cette manière, je vais pouvoir m'adresser à différents types d'apprenants qui vont avoir peut-être des préférences qui soient liées, qui sont peut-être liées à leur handicap ou pas, mais en tout cas, je vais faire en sorte d'avoir une diversité dans ma façon de présenter l'information.
Ça, c'est le premier moyen, le moyen multiple de représentation.
Ensuite, exactement.
T'as le deuxième.
Ensuite, je vais avoir un principe d'avoir des moyens d'action et d'expression multiples. Et ça va être très important. Je vais vous donner l'exemple, si par exemple on est dans une classe, d'un exposé. Donc, l'enseignant dit... dans un mois, vous allez faire un exposé sur tel sujet. J'imagine que dans ma classe d'élèves, j'ai un élève, par exemple, qui a des troubles anxieux, ce qui est assez fréquent. Il va faire de l'anxiété d'anticipation. C'est-à-dire, 3 semaines avant, il va pas dormir, il va stresser à l'idée de faire son exposé. Alors même qu'il a les compétences. C'est-à-dire qu'il est tout à fait en capacité de comprendre le contenu. Parce que si on se met à la place de l'enseignant, lui, l'enseignant, il veut pas que ses élèves deviennent des grands orateurs. C'est pas ça l'objectif pédagogique. Il veut, à travers cette production de contenu, qu'ils répondent à l'objectif pédagogique et qu'ils s'intéressent au sujet.
Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de laisser un peu plus le choix, peut-être à l'apprenant, dans sa façon de remettre, en tout cas, là, dans ton exemple, de remettre son travail pour justement éviter ce type de problème.
C'est exactement ça. Je peux décider de faire une disserte, de faire un podcast, une vidéo, un jeu vidéo, peu importe. Mais on va vraiment laisser une liberté d'expression.
Très québécois, ça. Ça ne m'étonne pas que c'est du Québec, ce standard. Et le dernier, les moyens d'engagement multiples.
Alors, les moyens d'engagement multiples, c'est que là, on va prendre en compte que chaque apprenant est différent. Donc là, c'est vraiment plutôt spécifique à la CUA que l'accessibilité. Mais on va se dire, par exemple, je fais un MOOC. Je le fais parce qu'il y a un sujet en particulier dans ce MOOC qui va m'intéresser. Donc, une unité d'apprentissage en particulier. Mais j'ai pas envie de faire tout le MOOC parce que le reste ne m'intéresse pas. Donc, je vais avoir quand même une certaine liberté dans le choix, par exemple, des unités d'apprentissage. Alors, c'est quand même lié à l'accessibilité parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on est en situation de handicap, il y a une comorbidité qui est la fatigue chronique et notre mode de vie, enfin le mode de vie de la personne, ça va être de faire des arbitrages. Si elle peut gagner du temps, et donc c'est-à-dire éviter de revoir une unité d'apprentissage où elle maîtrise déjà le sujet, elle va le faire.
Ok.
Donc ça va être intéressant. Mais alors ça pose une question qui est de comment on évalue la réussite d'une formation, puisqu'encore aujourd'hui, on se repose beaucoup sur la complétion, sur les plateformes LMS, etc. Donc pareil, ça c'est des indicateurs à revoir quand on pense à l'accessibilité.
Ok, très clair. On a parlé des deux premières lettres de ta méthode AIDE, analyse, intégration, il nous en reste deux, design, évaluation.
Alors oui, sur le design, donc là ça va être le design inclusif, où là on va toucher vraiment précisément à la production audiovisuelle.
Production des ressources là.
Exactement, donc là c'est là que va beaucoup intervenir le RG2A, et on va également s'intéresser aux normes d'ergonomie. Donc, on va faire en sorte d'avoir des interfaces utilisateurs qui soient le plus compréhensibles possible, où je n'ai pas à me former pendant 5 minutes pour comprendre comment ça fonctionne. Il faut que ce soit intuitif.
Que ce soit affordant.
Peut-être. Je connais...
J'adore ce mot. Affordant, c'est quelque chose qui... t'as pas besoin qu'on te l'explique. En gros, ça symbolise son utilisation, finalement. Quoi.
Donc, c'est...
L'affordance, c'est un très joli concept. J'aime beaucoup ce mot.
Donc, c'est exactement
ça. Mais je me retrouve exactement dans ce que tu viens de dire, l'affordance.
Et justement, pour l'affordance, ça pareil, c'est pas nouveau en fait, puisque vous avez ce qui s'appelle une heuristique de Scapin et Bastien, où, je sais plus de quand ça date, mais c'est pas tout neuf, où justement ils ont défini des critères pour rendre les interfaces web notamment accessibles.
Ça me rappelle mes cours de master.
Voilà.
Vous avez vu, exactement. Alors ouais, toi, on parlait juste avant le podcast justement de la suite Articulate et notamment de Rise en outils pour produire. On en parlera un petit peu après des outils, parce que tu sais, nous, notre leitmotiv aussi notre leitmotiv, en tout cas, on parle beaucoup d'outils dans Rendez-vous Inter Digital, donc on en parlera un petit peu après, et surtout, enfin, pourquoi toi tu utilises aussi beaucoup ces outils et pourquoi ils sont pertinents pour contrecarrer, on va dire, ces soucis d'accessibilité. Donc on a fait le A, le I, le D, il nous reste le E, c'est l'évaluation, c'est ça?
Voilà, le E, c'est l'évaluation. Alors, en fait, qui s'intègre, mais comme dans toute gestion de projet, tout le temps, en fait, dans le projet. À chaque fois, je vais faire des retours en arrière.
C'est l'itératif, en fait.
Exactement.
Ok.
L'évaluation, alors, elle est hyper importante et elle correspond quand même à une des choses les plus importantes quand on démarre. C'est-à-dire qu'il va falloir se former à des modes de navigation alternatifs. Je m'explique. Je parlais tout à l'heure des lecteurs d'écran. Donc, par exemple, quelqu'un qui est aveugle ne va pas consulter un site web comme toi et moi. Il va devoir utiliser un lecteur d'écran où il y a une voix de synthèse qui lit ce qui est affiché à l'écran. Mais on a d'autres modalités de navigation. Par exemple, si j'ai le bras paralysé, je vais utiliser ce qu'on appelle la navigation clavier. Donc, il va falloir que mon module puisse que je puisse naviguer dans le module sans avoir utilisé la souris. Donc en gros, juste pour expliquer, j'appuie sur la touche Tab de mon clavier, Entrée pour valider, etc. Et ça va me permettre de naviguer. Mais ça, il faut l'anticiper. Ça se fait pas tout seul. Et on parlait de Rise ou autre. Il faut l'anticiper.
Et ça, c'est inclus dans des outils type Rise, par exemple? C'est-à-dire que Rise propose nativement, justement, ces fonctionnalités-là?
Alors la particularité de ce qu'on appelle la suite Articulate, c'est effectivement, pardon, c'est qu'ils offrent des options d'accessibilité, mais alors c'est un petit peu technique, mais sur Storyline, on va devoir gérer ce qu'on appelle l'ordre du focus, de dire, bah, par exemple, l'apprenant doit d'abord interagir avec cet élément, puis tel autre élément,
D'accord.
etc. Donc ça, il faut quand même le travailler, donc ça demande un peu plus de travail. Par contre, sur Rise, ça se fait un petit peu plus naturellement, c'est plus facile de faire de l'accessibilité avec Rise.
Et sur d'autres outils qui parleront peut-être plus à nos auditeurs et à nos auditrices, parce que la suite Articulate, c'est vrai que bon, il faut être un expert pour utiliser, je sais pas, mais en tout cas, il y a peu de personnes qui utilisent, ou alors c'est dans les grandes entreprises, etc. Mais sur des outils comme Geniali, par exemple, ou des choses comme ça, tu as ces options également de focus, enfin focus, et qui permet justement de naviguer au clavier.
Alors moi, je produis personnellement peu avec Geniali. Par contre, je me suis posé la question justement la semaine dernière. Alors officiellement, Geniali communique sur le fait qu'ils se sont mis à l'accessibilité.
D'accord. J'ai vu les textes descriptifs de photos, enfin ils
Voilà.
commencent à s'y mettre un petit peu, hein, voilà, sur
En
certains critères.
revanche, alors c'est vraiment, il faut retester, hein, mais moi je l'ai testé du point de vue de la navigation alternative, lecteur d'écran et autres, et j'ai été un petit peu déçu du résultat.
D'accord, ok.
Donc ça vaut le coup de creuser le sujet, mais dans tous les cas, aujourd'hui, peu à peu, les outils auteurs quand même s'emparent du sujet
Bah, c'est ce
parce que ça
que
devient
on
important.
commençait avec la description d'une image, mais finalement, on peut se dire que c'est un poisson dans l'océan, mais finalement, c'est aussi par là que ça commence, et que petit à petit, peut-être qu'on va mettre de plus en plus de choses pour faire en sorte que ce soit de plus en plus accessible au plus grand nombre, quoi.
Voilà, c'est tout à fait ça. Donc voilà, cette part d'évaluation, elle est importante puisqu'on va souvent devoir ce qu'on appelle recéter, c'est-à-dire retester à chaque fois le module. Et ça m'amène à la réflexion que les personnes les plus expertes en accessibilité numérique, ce sont les personnes qui sont en situation de handicap. Donc ça vaut le coup aussi de les intégrer comme bêta-testeurs dans nos productions.
C'est une bonne pratique aussi, hein, quand vous faites de l'ingénierie pédagogique, d'intégrer en effet des utilisateurs finaux, des apprenants finalement, pour pouvoir voir un peu ce qu'ils pensent de tout ça, et puis donner leur input aussi pour que vous puissiez derrière aller sur des conceptions et des productions qui soient finalement bien pensées pour votre cible, quoi. On arrive tout doucement vers la fin. Il y a quand même une question, enfin, il y a plusieurs questions que je voulais te poser. On va parler des outils quand même pour finir tout ça. Mais avant ça, c'est finalement, est-ce que cette méthode que tu nous as présentée là, elle permettre, la méthode AIDE, hein, donc analyse, intégration, design, évaluation, est-ce qu'elle peut permettre finalement de répondre à tous les problèmes d'accessibilité?
Alors, enfin, il faut rester humble, mais j'ai envie de dire, je ne sais pas si moi personnellement j'ai déjà réussi à créer un dispositif de formation qui correspondait exactement à tous les besoins de tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, il faut rester humble dans tous les cas. Et concernant plus spécifiquement l'accessibilité, on a des personnes qui parfois ont des handicaps tels qui vont avoir des besoins d'aménagement supplémentaires en plus de ce qui aurait été mis en place en matière, par exemple, d'accessibilité numérique. Donc, ça peut être, par exemple, une aide humaine, mais aussi la personne va avoir une responsabilité individuelle qui est de parfois se doter de moyens de compensation particuliers. Donc, un moyen de compensation, pour que ce soit clair, c'est par exemple un lecteur d'écran. Donc là, on est sur un logiciel. Mais par exemple, vous avez des systèmes un peu de souris très, très différentes où je vais pouvoir, par exemple, naviguer avec ma bouche sur un écran avec ma bouche parce que j'ai une tétraplégie ou autre. Mais dans tous les cas, oui, on ne pourra pas s'adresser parfaitement à tout le monde. En revanche, dès lors, on applique les principes d'accessibilité, donc les standards qui sont la conception universelle de l'apprentissage et le RG2A, c'est déjà très bien. On va s'adresser vraiment à un plus grand nombre de personnes. Et surtout, il faut se concentrer sur les aspects toujours de prendre en compte, en fait, la façon dont les personnes utilisent nos modules. Donc, de prendre en compte les modes de navigation alternatifs et l'utilisabilité. Et donc, on va s'améliorer comme ça, peu à peu. Et d'ailleurs, et ça me vient en tête, il y a un monsieur qui s'appelle François Atto, qui est, je ne sais plus s'il est ingénieur pédagogique ou développeur à l'université de Toulouse, mais qui lui expliquait dans une interview que j'ai vue la notion d'accessibilisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va entrer dans une politique de pas à pas plutôt que de faire rechercher l'accessibilité parfaite dès le démarrage.
D'y aller step by step. Ok, très clair. Pour finir, on va, tu le sais, parler un petit peu d'outils. Alors, je t'avais posé la question en préparant ce podcast de 1, j'ai mis entre parenthèses, ou plusieurs outils digitales à recommander pour répondre à des contraintes d'accessibilité. J'ai eu un joli tableau avec tout plein d'outils à l'intérieur. Je te laisse un petit peu en faire le résumé et puis surtout expliquer très succinctement comment ça peut aider finalement ces outils à nos auditeurs et auditrices qui voudraient mettre un peu les mains dans le cambouis et puis finalement comment ça va les aider, quoi.
Alors, moi, les outils, je les répartis en gros en 3 thématiques. La première thématique, c'est d'avoir des outils qui me permettent de me mettre à la place de l'apprenant, de comprendre ce que c'est de vivre avec un handicap. Donc, on va avoir des outils de simulation qui ne me permettront jamais de complètement cerner ce que c'est que le handicap, mais en tout cas, de quand même cerner un petit peu le problème. Et dans ce cadre-là, il y a une entreprise qui s'appelle Atalan, qui propose en fait un outil de simulation pour tester par exemple la navigation clavier, tester la navigation quand j'ai un problème auditif, un problème visuel, un problème de par exemple de Parkinson où j'ai la main qui tremble. Donc ça permet déjà de cerner le problème et de se mettre à la place d'eux.
J'ai vu un petit site comme ça où en effet tu voyais ton écran qui vibrait dans tous les... je sais plus quel type de handicap c'était, mais tu avais la visualisation d'une personne atteinte de ce handicap dont j'ai oublié le nom, et tu avais l'écran qui bougeait dans tous les sens, et là tu te dis ah ouais, mais...
Voilà, c'est exactement le principe.
Comment tu fais, quoi ?
C'est vrai que sur le tremblement, je parlais de Parkinson, mais en fait vous avez...
C'était visuel, je crois, c'était un tremblement. Enfin, il y avait un truc, tremblement visuel, et donc ton écran, c'était illisible, quoi. Enfin, c'était très compliqué de choper un mot, ne serait-ce qu'un mot sur une page web, quoi.
Effectivement, et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut utiliser plutôt un lecteur d'écran.
Ouais.
Souvent, les lecteurs d'écran, on a l'impression que c'est pour les personnes aveugles, mais en fait, il y a beaucoup d'autres troubles visuels, effectivement.
Okay.
Il y a un autre site que j'aime bien, alors qui est en anglais, qui s'appelle neurodiversity.design.
On vous mettra tous les liens vers tout ça dans le descriptif, comme d'habitude.
Bah, super. Et lui qui propose en fait plein de petites cartes avec des personas de personnes qui sont en situation de handicap et qui permettent de se rendre compte justement des conséquences du handicap, y compris les handicaps invisibles, dans la vie quotidienne et dans l'apprentissage. Ensuite, ce qui va être intéressant, je parlais tout à l'heure des modes de navigation alternatifs. Ça va être de se former tout simplement à la navigation clavier et à la navigation avec un lecteur d'écran. Moi, c'est ce que j'ai fait au démarrage. Ça n'a pas du tout été une partie de plaisir, puisque je me suis rendu compte, alors que je pensais déjà faire de l'accessibilité, puisque je respectais les contrastes, etc., je me suis rendu compte qu'aucun de mes modules n'était accessible. Voilà. Donc, il faut vraiment... et c'est pour ça qu'il y a le RG2A, mais il faut beaucoup s'intéresser à l'utilisabilité des modules. Et ensuite, alors, je vais pas tous les citer, mais il y a de plus en plus d'acteurs qui vont sensibiliser aujourd'hui et de médias qui sensibilisent au handicap. Là, j'en ai deux qui me viennent en tête. Il y a déjà une entreprise qui s'appelle Petite Mue qui sensibilise particulièrement au handicap et Handicap invisible, et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un podcast qui s'appelle En Lumière, qui, je crois, un média aussi. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs aussi aujourd'hui qui partagent là-dessus. Okay. Donc, ça vaut le coup de les suivre et de lire leurs publications pour se mettre à la place toujours des personnes en situation de handicap. Donc, ça, c'est
comprendre la première catégorie sur la compréhension.
Ensuite, on va avoir des outils qu'on appelle de recettage. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Donc, on a par exemple un outil qui s'appelle Color Contrast Analyzer, qui là, va me permettre de savoir si mes contrastes sont bons. Dans le même type, on a un outil qui s'appelle Stark. Donc, on mettra les liens.
Ouais, on vous mettra tous les liens qui vont bien.
Je parlais tout à l'heure de la structuration des contenus, qui est hyper importante. Donc là, il y a un outil qui s'appelle Headings Maps.
Okay.
Et ensuite, on va avoir des outils d'audit. Par exemple, la direction interministérielle du numérique propose un outil qui s'appelle ARA, qui va me permettre de faire un audit RG2A. Mais alors moi, je préfère, il y a une grille d'audit qui est proposée par une entreprise qui s'appelle Tanaguru, que je trouve un peu plus opérationnelle, donc je conseillerais de...
Ok, on vous la mettra aussi en lien. Vous allez avoir plein de ressources à consulter.
Voilà, exactement. Et puis toujours en fait dans cet audit de faire de la navigation au clavier, de utiliser le lecteur d'écran, pareil de zoomer son écran à 400% pour voir si les textes sont bien responsifs.
Ça tu fais directement dans ton navigateur internet.
Complètement.
Ouais, donc, tu utilises en fait les fonctionnalités de Google Chrome ou Edge ou je sais pas quel navigateur tu utilises pour finalement venir tester toutes ces fonctions de zoom, de navigation au clavier, de lecture d'écran, etc.
Voilà exactement.
Okay, d'accord, super.
Et ensuite il y a la dernière catégorie qui est les outils de production. On en a parlé, ils vont sans doute évoluer. On va sans doute avoir de plus en plus d'outils. Celui que j'utilise, moi, principalement, c'est Storyline et Rise. Et ensuite, toujours dans l'aspect de production, il y a une palette d'outils qui est proposée par un organisme qui s'appelle La Digitale, que moi, j'aime beaucoup, et qui propose plein de petits outils, par exemple, des outils pour mettre des QR codes. Donc, par exemple, je peux imaginer que je donne une copie à mes élèves. Et en QR code, je vais pouvoir accéder à la consigne au format audio. Mm. Donc, si je suis dyslexique, par exemple, ça va m'aider.
Ça se fait beaucoup, ça, en ce moment, sur les corrections audio aussi.
Alors, complètement.
Je ne suis pas sûr que ce soit dans une démarche d'accessibilité, mais c'est en test dans l'Académie de Versailles, notamment.
Complètement. Ouais, okay. C'est super.
C'est digital, on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans Rendez-vous Digital. C'est assez marrant que tu cites tout ça.
Bah, c'est vrai qu'ils ont pas mal d'autres outils. Je pense aussi à un autre outil qui s'appelle DigiView,
ouais.
Qui va permettre d'enlever les distractions autour des vidéos YouTube.
Ouais, les pubs et compagnie. Là.
Donc, quand vous avez par exemple un élève qui a un trouble de l'attention, c'est pas mal d'avoir ce type d'outil.
Après,
il y a plein d'outils mais on pourrait passer des heures à les citer.
On vous mettra les liens vers tout ça et puis on vous mettra ça, ouais, que ce soit la grille d'audit de Tanaguru ou bien tous les petits outils qu'on a cités là. On essaiera aussi de vous trouver un petit peut-être tutoriel, je pense que ça doit se trouver sur YouTube, ça par exemple, de comment je fais, parce que c'est pas, enfin moi par exemple, faire la navigation au clavier avec mon navigateur ou activer par exemple le lecteur d'écran avec mon navigateur, je sais pas forcément le faire. On essaiera de vous mettre un petit truc aussi en description pour que vous puissiez aller tester sur votre navigateur. Alors pour finir, tu sais qu'en ce moment moi je suis à fond dans l'intelligence artificielle et je me dis que finalement cette technologie elle pourrait peut-être aussi aider que ce soit dans ces phases d'audit, de recettage ou de production. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est quoi ton avis là-dessus? T'as vu des choses intéressantes ou voilà, c'est quoi ton point de vue?
Alors je vais te répondre oui et non, c'est bien l'intelligence artificielle. Alors non, pourquoi? Parce que aujourd'hui on a des solutions qui sont proposées qui sont ce qu'on appelle des outils de surcouche. Où on se dit, c'est génial, avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas besoin de faire un effort d'accessibilisation, puisque en un clic, on pourra transformer n'importe quel site internet, n'importe quel e-learning en module accessible. Sauf que pour l'instant, en tout cas, ces outils ne sont pas valides, car ils ne sont pas toujours compatibles avec les technologies d'assistance. Et ils ne vont pas permettre l'utilisabilité des outils, des interfaces. Donc méfiance de ce point de vue-là. En revanche, l'intelligence artificielle, moi je l'utilise de plus en plus, même si je suis pas aussi expert que toi sur le sujet. Par exemple, quand j'ai un doute sur un texte que je vais vouloir rendre le plus intelligible possible, je vais donner à ChatGPT lui rappeler quelques règles de ce qu'on appelle le langage simplifié. Qui est en fait un langage assez clair et qui va me permettre moi d'obtenir quelque chose d'un peu mieux. Et dans le même sens, il y a un outil qui s'appelle FalcBot, donc Falc comme facile à lire et à comprendre, qui va permettre de convertir rapidement un texte complexe en un texte facile à lire et facile à comprendre. Mais il y a toujours un mais avec moi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont spécialisées, des êtres humains, sur ces questions de FALC et de langage simplifié. Clairement, enfin, moi, je recommanderais de faire appel à eux, car enfin, ils ont cette capacité à mettre de la cohérence, et c'est ce qu'on recherche aussi beaucoup quand on parle d'accessibilité.
L'outil, ça va quand même te permettre de, encore une fois, un peu mettre la main dans le cambouis, mettre les doigts dedans, et puis essayer. Enfin voilà, c'est super intelligent comment tu l'utilises pour justement prompter des choses et avoir des sorties qui sont en langage simplifié ou en facile à lire et à comprendre. Mais après, en effet, je comprends aussi qu'il y a des experts là-dedans et que faut aussi se baser sur ces gens-là qui ont le savoir en fait depuis un moment et qui l'appliquent aussi.
Voilà, complètement. Et juste sur deux choses pour terminer sur l'intelligence artificielle. Moi, déjà, ça m'a permis de gagner du temps sur d'autres tâches d'ingénierie pédagogique. Et ce temps-là, je peux le consacrer justement sur la qualité de mes formations. Et je pense aussi à une technologie qui est particulièrement intéressante, qui est la technologie OCR, donc qui est une technologie de reconnaissance optique des caractères, qui aujourd'hui, alors qui avait un petit peu de mal avant l'IA, donc par exemple, j'ai une feuille scannée, je vais lui demander d'aller rendre le texte sur la feuille scannée éditable, il avait parfois un petit peu de mal à reconnaître les mots. L'IA va remettre parfois un petit peu de cohérence et comprendre les mots, et ça c'est hyper important pour rendre... les contenus accessibles.
C'est de plus en plus puissant, ces outils. Moi, j'ai un outil de facturation qui intègre de l'OCR avec l'appareil photo de mon téléphone, et des fois, il me scanne des factures où c'est écrit n'importe comment et il te ressort les bons trucs. Enfin, ouais. Tu te dis, waouh, c'est quand même impressionnant, quoi. Donc, en effet, si tu peux le mettre au service d'une meilleure accessibilité, bah, faut y aller, quoi.
Pareil, il y a beaucoup d'espoir. Pareil, là, je voyais un outil sur la traduction automatique en langue des signes. Et voilà, plus tout ce qu'on va découvrir à l'avenir. Voilà, donc on pourrait passer un podcast à part entière sur l'intelligence artificielle et l'accessibilité.
Bah écoute, on pourra en reparler à l'occasion, hein, quand on aura débroussaillé un peu plus le sujet et qu'il y aura aussi peut-être plus de solutions techno qui seront arrivées sur le... Mais en effet, enfin, je suis assez raccord avec toi en disant que si ça peut faire gagner du temps pour ensuite le réinvestir... Alors moi, mon message, c'est toujours de dire que l'IA, c'est un bras droit pour le formateur, pour le concepteur, et que le temps gagné, c'est du temps que tu peux réinvestir avec l'apprenant. Mais si c'est dans la conception de modules et le fait d'améliorer l'accessibilisation, si je t'ai bien écouté, faut y aller, quoi, faut le faire. On est à la fin de ce petit podcast. Allez, je te laisse une minute, trois conseils pour les gens qui débutent et qui veulent se lancer dans l'accessibilité. En une minute, top chrono.
Ok, une minute top chrono. Alors, je dirais déjà, formez-vous aux moyens de navigation alternatifs.
Ok.
Faut démarrer par ça, sur l'utilisabilité de ces modules. Ensuite, ça va être aussi, j'ai envie de dire, de changer de regard sur le handicap, intégrer le fait que le handicap, il est aussi invisible, qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui sont en situation de handicap. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut faire un tour sur ce qu'on appelle le RG2A, donc le référentiel général d'accessibilité. Alors, c'est pas une partie de plaisir, mais il faut faire un tour pour comprendre ce que c'est que l'accessibilité numérique. Et enfin, j'ai envie de dire, ne voyez pas l'accessibilité comme juste une contrainte, mais plutôt comme une occasion de revoir un peu vos process de production et d'imaginer des alternatives, des nouvelles modalités pédagogiques. Moi, pour ma part, ça fait maintenant 2 ans vraiment que je m'intéresse au sujet, et c'est beaucoup plus enthousiasmant que contraignant. Donc vraiment, allez-y et prenez du plaisir à faire des modules accessibles.
Eh ben, merci pour ces conseils. Bon, c'était 4 au lieu de 3, mais t'as tenu en moins d'une minute, donc je les accepte. Merci en tout cas, Cédric, d'être venu à nos micros. Dans un coin de ma tête, IA plus accessibilité, il faudrait qu'on en reparle peut-être dans quelques mois, parce que je pense qu'en effet, c'est des opportunités qui vont s'ouvrir bientôt et qui vont permettre finalement de rendre beaucoup plus accessibles les modules et les formations qu'on développe. Donc, pourquoi pas en reparler dans 6 mois, 1 an, mais en tout cas, avec grand plaisir. Merci d'être venu à nos micros.
Merci beaucoup, Clément.
Merci à toutes et tous de nous être fidèles. Vous avez maintenant écouté le podcast, donc félicitations. N'oubliez pas qu'il y a sur le site web et sur la description du podcast l'ensemble des ressources, des outils, des liens dont on a discuté ensemble avec Cédric. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel outil avec Olivier qui sera bien entendu de retour. Allez, salut, salut. Salut, Cédric.
Salut.